Bonjour Quentin, comment tu vas?
Bah bonjour, bah ça va bien, plutôt pas mal par les temps qui courent.
C'est clair. Bah écoute, ouais, non, c'est vrai qu'on est en week-end déjà, il fait relativement beau.
Ouais, ça y est,
Voyons déjà chaque petite chose en son temps. Alors, est-ce que tu pourrais te
le soleil, ça fait du bien pour le
De
moral, ouais.
ouf, de ouf. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs, s'il te plaît?
Bah moi c'est Quentin Leroux, alias Hugo Kant, pour mon nom de scène, comme on dit. Je suis musicien, je fais de la musique depuis très longtemps. Enfin, en fait, toujours, j'ai toujours fait de la musique. Voilà, sous le nom de Hugo Kant, ça fait une dizaine d'années là maintenant. Ça va faire 10 ans l'année prochaine que j'ai commencé ce projet-là.
Ok. Et donc, comment t'es venu le nom de Hugo Kant?
J'avais envie d'un nom, de changer de nom entre guillemets. Mon surnom, c'est Kant, tout simplement. C'était Kant
Quentin.
de Quentin. Ouais, donc,
Ouais.
c'était mon surnom. Et c'était un peu court pour faire les profils, les recherches sur Internet. Et c'était un peu, puis déjà utilisé. Donc, pour pas mal de raisons, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve autre chose ou quelque chose de plus. Et du coup, j'ai rajouté Hugo devant pour la sonorité. Et voilà. C'est devenu Hugo Kant.
Trop bien. Et après, là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? D'après ce que tu me disais, c'est depuis toujours à peu près, mais ça fait vraiment combien de temps que tu es lancé en mode pro?
En mode pro, on peut dire aux alentours du bac.
Ah ouais.
Oui, parce que j'ai commencé, enfin, du bac, donc mes 18 ans, parce que j'ai commencé à jouer en groupe avec des copains on va dire vers 14 ans, au moment où on commence à faire un peu ce qu'on veut, quoi. Avec des copains, tout ça, on a commencé un groupe de jazz rock psychédélique, voilà, on a eu 14, 15 ans, ça a duré une dizaine d'années aussi. Donc, on peut dire que, aux alentours des 18 ans, on faisait des concerts, on commençait à composer, faire des festivals, des trucs comme ça, quoi.
C'était quoi le nom de ce groupe?
C'était Gus Weg Water Gang,
D'accord.
s'appelait. À
Okay.
l'époque.
Et là, vous êtes
Oui,
en arrêt, en pause, ou vous avez arrêté?
on a arrêté en 2001. Il y a le batteur, je dirais pas son nom. Il est parti à Paris. Et puis du coup, vu que c'était un projet très de copains, enfin très fusionnel, on va dire, un membre de moins, on s'est dit bon, sur quoi on a arrêté. On était sur le point de faire un autre album, de signer chez Harmonia Mundi à l'époque et tout ça, mais bon, ça s'est arrêté.
Ok. Et donc, c'est à partir de là que tu as commencé ta carrière avec Hugo Kant, ou c'était un peu plus
Non.
longtemps?
Non, parce que ça, c'était en 2001, 2001, 2002, par là. Et du coup, Hugo Kant, ça a été 10 ans plus tard. Pendant cette dizaine d'années, j'accompagnais pas mal de musiciens, fait différents projets, accompagné notamment David Lafaure pendant Chanson française pendant un moment. J'ai eu un projet aussi sur Marseille de Fanfare où on a joué pas mal. On a fait 2 albums avec eux. Puis jouer dans la rue, aller un peu de partout en Europe, pas mal en Allemagne, en Italie, faire la Manche à une dizaine dans la rue avec ce projet-là. Enfin, des choses comme ça. Jouer un peu de salsa dans un groupe de salsa, électro latino, des trucs.
Ah, c'est fait. Donc, tu as eu quand même pas mal d'expérience avant de commencer le projet Hugo Kant. Et tu penses que c'était quelque chose qui avait besoin d'être mûri via toutes ces expériences pour pouvoir lancer ton projet solo?
Possible, oui. En tout cas, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien de jouer pour les autres, ce serait pas mal que je joue aussi un petit peu pour moi. Et voilà, c'est le départ de ce projet-là. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois, bah, les groupes de musique, bon, bah, ça se forme, ça se joue, et puis après, ça se déforme, et puis tout à refaire. Hein. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, voilà, si c'est mon projet, il s'arrêtera pas, ou alors.
Quand je voudrais, quoi.
C'est voulu, ouais.
C'est ça. Et donc, moi, je t'avais découvert avec Flying, puis après, j'avais écouté Entering the Black Hole. Donc, j'avais beaucoup aimé cet univers trip-hop, down-tempo, bien planant. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce style musical? Avant, tu m'as décrit, donc, justement, plutôt du rock psyché, après de la salsa, aussi de l'orchestre de rue. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce style-là?
Bah, c'est un peu l'évolution musicale que j'ai pu avoir. Moi, j'ai été un peu en retard dans tout ce qui est électro, musique moderne et tout ça, parce que en retard parce que nous on était des musiciens, des potes musiciens dans les années 90, pendant que tout le monde allait en rave, nous on était dans notre garage à jouer les Doors et d'autres trucs. Voilà, j'étais pas trop dans le créneau électronique à l'époque, qui restait du coup un petit moment d'écouter plutôt par le biais du jazz, Julien Louraud, des choses comme ça, électro jazz plutôt par ce biais-là. Puis c'est un peu plus tard que j'ai commencé à écouter Bonobo, Wax Taylor, Zirbalizer, des trucs avec un peu plus de hip-hop, un peu plus de programmation, on va dire, dans les sons, les arrangements, tout ça. Ça a mûri comme ça, tout doucement, tranquillement, jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire des morceaux. Ça a été un mélange en fait de toutes références quand j'ai eu de ma jeunesse, de la musique rock et world et tout ça, plus le côté un peu plus moderne de la MAO, on va dire. Ouais.
Et donc là, justement, j'ai remonté ton fil SoundCloud et j'ai vu que la première musique que tu as postée, c'était Smile, publiée en mai 2010. Est-ce que c'est ton premier morceau ou pas en tant que Hugo Kant?
En tant que Hugo Kant, oui, certainement. J'en avais fait d'autres. D'ailleurs, Smile, j'avais pas le nom de Hugo Kant à l'époque. C'était les quelques morceaux c'est parce que j'en avais toujours fait des morceaux chez moi, mais jamais finalisé un projet ou jamais été super content non plus du résultat. Ça fait partie des morceaux que j'avais comme ça sur mon ordinateur et que pendant que je travaillais sur le premier album, je m'étais dit bon ben qu'est-ce que j'ai là à mettre à dispo pour commencer un petit peu à faire parler du nom quoi. Mm-hmm. Surtout qu'à l'époque SoundCloud c'était en 2000, ça doit être 2010 par là ou je sais plus.
Le début du site 2008 ou 2007 je crois SoundCloud, c'est assez vieux.
Oui mais moi mon compte le premier morceau c'était en 2010, c'était beaucoup utilisé, c'était bien, il y avait plein de messages où on pouvait rencontrer pas mal de monde par ce biais-là. Ça a un petit peu changé maintenant, mais à l'époque, c'était pratique.
Bah ouais, parce que les plateformes genre Spotify, Deezer, ça a quand même bouffé pas mal le marché du stream et SoundCloud, ouais, ils ont quand même perdu beaucoup de parts de marché, je pense.
Ils ont fait l'erreur de changer complètement le site. Ça a un petit peu perdu les gens qui l'utilisaient. Puis le fait d'enlever des fonctionnalités aussi, c'est pas terrible.
Ils ont enlevé quoi comme fonctionnalité?
Ouais, le dashboard, déjà, il était complètement configurable. On pouvait choisir d'afficher que les likes, que les commentaires. Ça te permettait de filtrer, d'avoir vraiment que ce qu'on voulait. Il y avait quoi? Il y avait les groupes. Il y avait des groupes aussi où on pouvait proposer la musique dans des groupes. Le propriétaire du groupe décidait d'accepter ou pas le morceau. Ça permettait d'avoir des groupes comme ça filtrés. Sûrement deux, trois autres choses aussi qu'ils ont enlevées.
J'y suis depuis un petit bout de temps. Et bah, après, par contre, niveau musique électronique, je trouve que SoundCloud, ils sont quand même vraiment, il y a toujours énormément de choses. Ouais. Voilà. Mais par contre, plus orienté électro, quoi.
Ouais, ouais. Bon, il y a de tout, hein, comme de partout. Mais c'est encore un des endroits où on peut poster des remixes, des choses, des mix. Bon, des fois, ils sont enlevés, mais des fois, ça passe.
Tu veux dire sans strike, c'est ça, sans que sans ouais, se retrouver pour raison de droit d'auteur.
Ouais, ouais.
Après, donc j'ai cru comprendre que tu étais multi-instrumentiste. Tu joues de quoi exactement comme instrument?
Essentiellement piano, flûte, et après guitare aussi. Mm-hmm. Piano, flûte, guitare, donc guitare basse, percu, clarinette et bugle aussi.
C'est quoi le bugle déjà?
C'est comme une trompette avec un petit peu moins de tuyaux, pas forcément plus gros, mais c'est pas les mêmes tuyaux exactement et qui a un son un poil plus feutré que la trompette. Ça cuivre moins, comme on dit.
Ok. Et t'es autodidacte, c'est-à-dire que t'as appris par toi-même ou est-ce que t'as eu quelqu'un qui t'a enseigné tout ça?
Ah bah le piano au conservatoire.
Ouais.
Jusqu'à 14 ans, je crois. Après, j'ai fait 4 ans de guitare classique au conservatoire. Puis donc, les cours de solfège qui vont avec. Puis après, le reste, oui, en autodidacte, les percus, la batterie avec mes potes batteurs. J'avais la batterie dans ma chambre, je pouvais m'entraîner, jouer un peu comme je voulais. La clarinette, oui, tout seul. La flûte aussi. Okay. Et le bugle aussi.
Ça doit être quand même assez sympa de pouvoir faire ces choses-là. Parce que après, quand tu fais ta MAO, tu enregistres ça en tant que MIDI ou tu enregistres à chaque fois les prises sont avec un bon micro. Ou tu fais ça uniquement au clavier?
Ah bah j'utilise le micro, oui, quand il ouais. faut que je... Il y a pas mal de flûtes dans les morceaux, mais je les enregistre.
Oh, okay.
Normal, comme dans un studio.
Et ton processus créatif, il se déroule comment?
Ça dépend des jours.
Ouais.
Des jours avec, des jours sans. J'ai pas de routine, j'ai pas de recette.
D'accord.
Ça peut être de commencer par une rythmique, commencer par une basse, commencer par un riff de guitare, les débuts de morceaux sont un peu énigmatiques. Disons que c'est quand on se dit bon ben je vais faire des morceaux, bon ben alors qu'est-ce que je peux faire? Et puis je vais prendre un peu ce que j'ai, alors, soit dans les instruments que j'ai sous la main en tant que percu ou autre ou basse, ou alors directement dans l'ordinateur avec des sons de batterie que j'ai ou des trucs comme ça. J'ai pas de recette.
Donc quand t'en as envie, voilà, tu t'y colles quoi.
Ouais.
T'es uniquement sur ton activité musicale, c'est-à-dire est-ce que tu as une autre activité professionnelle derrière ou est-ce que tu as été uniquement sur le projet Hugo Kant?
Non, je suis que le projet Hugo Kant. Ouais.
Trop bien.
Ouais.
Bah ouais, donc tu as complètement le temps en fait attelé à la tâche justement de la création.
Ouais, bon, après ça prend du temps parce que enfin, je mets longtemps à finir les albums. Là, je suis en train de. Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais je suis en train de finir le quatrième. Je traîne, c'est jamais fini pour moi.
Et justement, après en termes de. Comment dire, tu sors des projets tous les combien de temps d'après toi en moyenne?
Bah là, les albums c'est 2-3 ans.
Ouais.
Donc j'aimerais bien que ce soit plus rapide, mais bon, ça prend du temps. À chaque fois, quand on a fini un album, il y a forcément un petit laps de temps où on n'a pas envie de se remettre tout de suite. Je peux passer ces journées à mixer ou à chercher, à mettre à la poubelle ce qu'on a fait la veille. Je fais une petite pause, puis après, c'est un long processus de faire des morceaux, puis d'en laisser de côté, de garder les meilleurs.
Ouais. T'as un label derrière ou pas, ou tu t'es vraiment au projet solo?
On a monté une association pour gérer, donc c'est le label, mais c'est une association indépendante.
Mmh. Ok, c'est quoi le nom de l'association?
Bellring.
Bellring, ok. Et il y a qui d'autre comme artiste dans cette association?
Bah, jusqu'à présent, il n'y avait que moi. Puis là, on a sorti un petit EP de Iloé,
okay.
Un artiste voilà, bah, qui est sur Spotify, sur le site de Bellring aussi. Bon, pour l'instant, voilà, c'est tout. On n'a pas le temps, les ressources humaines, l'argent. C'est trois choses de vraiment faire le travail de label.
Mmh. Et après, donc, pour ton projet, d'où te vient l'inspiration quand tu composes? Est-ce que tu as des choses particulières qui te viennent en tête lorsque tu touches ton clavier?
Bah, quand je compose, je fais attention, je mixe en même temps les morceaux, et ce qui m'inspire, c'est les sonorités, les sons, comment ça sonne, la musique, qu'est-ce que ça évoque et quelle force ça peut avoir dans le terme émotionnel, d'évasion. Je me laisse porter par ça, oh, tiens là, j'entendrais plutôt ça, et hop, j'essaye tel son. Par coup, j'ai une base, et puis après, je rajoute des couches sonores.
D'accord. J'ai vu donc sur ton live au Goulage Disco Festival en septembre 2019, quand tu joues sur scène, donc t'es au piano plus Ableton, c'est ça ?
Ouais, avec la flûte, ouais.
Ok, aussi.
Clavier et flûte, ouais. On peut pas transporter beaucoup plus pour l'instant pour les concerts.
Ouais.
Et donc pour l'instant, c'est ça, c'est clavier
et
flûte.
Et tu joues principalement où quand tu vas en live ? Apparemment, tu disais ça en interview, que tu étais beaucoup dans les pays de l'Est.
J'en ai fait pas mal. Bon, alors surtout la Grèce, hein. J'y suis allé beaucoup, et je vais y retourner. Je devais y retourner, ça a été annulé, mais beaucoup en Grèce, oui, après les autres pays, j'ai fait un petit peu en Roumanie, la Pologne, je suis en Italie, aux îles Canaries, la France. Pas trop fait encore l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne. Enfin, les plus proches, je les ai pas fait. Un peu plus loin, j'ai pu aller pas mal de fois. Ouais.
Ton avis, selon toi, ça marche potentiellement mieux là-bas, où tu avais plus une demande dans ces pays-là en termes du go-kant que dans les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc.
Ça, je sais pas. Bon, j'ai des demandes un peu de partout. J'ai pas de tourneur vraiment qui s'en occupe. Donc c'est essentiellement les gens qui me contact et qui ont envie de me faire jouer. Pour la Grèce, c'est souvent des DJ qui eux-mêmes jouent dans des bars ou des petites salles, qui organisent des événements de temps en temps et qui aiment bien ce que je fais, qui m'invitent. Et puis je fais la tournée en Grèce de là où ils jouent. Je fais le DJ pendant 2-3 heures, enfin le live set.
Ouais.
Le live set dans les lieux de nuit en Grèce, c'est sympa.
Trop cool. Et après, donc, tu es uniquement en live, tu fais pas DJ set, tu es à chaque fois en live. Ok.
Ouais.
Ça, c'est propre, ça. Et là, justement, je voulais aussi te demander, donc j'ai vu que tu avais sorti ton dernier EP, The Seven Seas, sorti il y a un peu moins d'un mois. Est-ce que tu peux nous en parler ?
C'était l'été dernier. J'étais en train de bosser encore sur l'album que j'ai toujours pas fini. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est pas fini. C'est ce que j'ai reçu un message de Yann Urbina, effectivement, pour me demander si je voulais participer à ce projet. Je lui ai répondu oui, et j'ai passé quelques mois à faire les morceaux pour ce projet qui est sorti là, il y a un mois. C'est un petit peu un projet parallèle à ce que moi j'avais prévu de faire dans ma chronologie. Donc il s'insère comme ça un petit peu au milieu, mais moi j'ai eu des bons morceaux, j'aime bien.
Ok, et là vrai, donc le projet musical donc de Yann Urbina, c'est The Outlaw Ocean. Donc c'est un livre qu'il a écrit qui traite de divers abus comme la pêche illégale excessive, trafic d'armes en mer, de l'esclavage humain, etc. Donc c'est apparemment un projet qui rassemblerait des centaines de musiciens autour de ce projet commun de narration musicale sur l'expérience du journaliste qui a passé 5 ans en mer pour faire son récit. Donc c'était quoi exactement le détail du projet ? Comment il vous l'a présenté en fait ?
Comment il nous l'a présenté ? Bon, à la base, je savais pas qu'il allait y avoir plein de musiciens.
Ouais. Ah, on t'a pas dit ça ?
Je faisais peut-être partie des premiers qu'il a contacté au début. Donc il y a eu un petit malentendu à ce niveau-là. Mais bon. Et après, il a présenté comme étant de la musique faite avec des éléments sonores que lui, il nous a fournis. C'est-à-dire des interviews ou des ambiances sonores prises pendant ses voyages journalistique. On avait tout un tas de matières sonores, bon, surtout vocales. Et puis, c'était de faire de la musique qui accompagnerait le livre ou qui reprendrait des chapitres du livre avec les éléments sonores qu'ils nous ont fournis pour faire de la musique.
Et donc, comment tu les as inclus exactement ? Comment t'as fait ton choix de quels extraits tu voulais passer ? T'as fait d'abord la composition musicale et après, t'as inclus des extraits ? Ou t'as peut-être essayé de faire autour de ce que l'on t'avait donné ?
Je sais plus par quoi j'ai commencé exactement. Mais généralement, c'est par la musique. C'est dur de commencer juste par une voix, ou alors on a une voix, tout de suite on met de la musique derrière. Donc voilà, donc ça se fait comme ça. Après j'ai écouté un peu tout ce qu'il y avait, et puis les passages que je trouvais les plus utilisables, j'ai choisi, puis j'en ai fait des morceaux avec.
Et là après, donc ça a un peu cumulé avec, en plus, ta sortie d'album que tu avais prévu, ça a dû te faire quand même beaucoup de travail supplémentaire en plus de ton projet que tu avais derrière.
Bah oui, ouais, c'est ça. Ça a reporté un petit peu ce que j'avais prévu. Ouais.
Ouais. Et là, ton futur album, tu prévois de le sortir quand ?
On n'a pas décidé de date précise. Le problème, c'est que quand on arrive au début de l'été comme ça, c'est toujours la question, c'est de savoir, bon, on le finit là vite et puis on le sort avant le 1er juillet, ou alors on attend la rentrée, ou alors on s'en fout, on le sort au milieu de l'été pendant que les gens sont en vacances. Donc là, on n'a pas de décision définitive encore. Ça sera pas après la rentrée. Si c'est pas là bientôt, ça sera début septembre, quoi.
Et le confinement, ça t'a affecté un petit peu ? Je présume que au niveau de tes lives, clairement, ça t'a affecté beaucoup. Mais après, au niveau de ta production musicale, justement, t'arrives à mieux composer, ou justement ça t'embête toi aussi, t'as un home studio, je présume?
Ouais, je suis à la maison, à la campagne. Donc, au jour le jour, ça change pas énormément. Bon, si on peut plus aller faire les courses tranquillement, et plus faire les barbecues avec les copains. Donc, ça change. Ce qui est de mes journées de tous les jours, bon, je peux bosser un petit peu de la même manière. Bon, faut gérer les enfants en plus.
C'est vrai. Au moins, t'as l'avantage d'avoir un home studio, quoi, aussi. C'est que tu peux aussi rester avec eux, quoi.
C'est le seul gros changement. Après, ça va. Tout va bien pour faire de la musique. Mais le confinement, c'est pas ce qu'il y a de pire.
Ouais. Et après, donc, en termes de tes lives, t'en avais beaucoup d'annulés, justement, à cause de ça?
Oui, quelques-uns, ouais. Bon, après, j'ai pas énormément de concerts, mais je sais pas, ça doit être 4 ou 5. Je vais aller en Croatie, retourner en Grèce, sur Montpellier, qui était annulé, Saint-Etienne, je crois que c'est la Thiers. Enfin, voilà, j'en ai eu 4, 5 qui ont été annulés.
Et après, donc, ça a été reporté ou carrément annulé tout court?
Il y en a qui vont être reportés, ouais. Et puis, il y en a, c'était annulé, c'est annulé, ouais.
Ça va faire, je pense, beaucoup de mal, en tout cas, au niveau artistique, ce confinement, du moins ce virus. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui vont en souffrir quand même un petit peu.
Beaucoup d'artistes, beaucoup de techniciens, ceux qui bossent dans les techniques, de toute façon, des techniciens musique, théâtre, tout, oui. Et organisateurs de festivals, patrons de bars, tout le monde.
Tout le monde dans le même bateau, quoi.
Ouais.
Ok, et après, là, donc, qu'est-ce que tu as tes futurs projets? Donc, tu as là ta future sortie d'album. Est-ce que tu as d'autres choses après qui te tentent de faire?
Oui. Je dois finir aussi avec mon premier batteur qui était parti à Paris en 2001. On est toujours copains. Hein.
D'accord.
Et on a déjà commencé. On a un petit album en collab qu'on a commencé il y a quelques temps déjà. On se voit pas souvent et puis on a chacun des trucs à faire, mais je vais essayer d'enchaîner là-dessus après, finir cet album-là aussi. Mm-hmm. Et voilà.
Après, on avisera quoi par rapport à la sortie de l'album, justement.
Ok. Ouais.
Est-ce que tu as des collaborations qui te tenteraient de faire justement avec des artistes que tu apprécies?
Oui, ça se fait régulièrement. Après, que ce soit en remix, de faire des remix, des collabs. Oui, d'ailleurs, il y a un morceau qui devrait sortir, mais je sais pas quand, avec je sais pas qui. je vais pas le dire parce que c'est lui qui fait sa com. Donc, il y a une collab. Après, que moi, dans mes... avec qui je voudrais, il y a des trucs qui sont prévus, prévus, où on se dit, ce serait bien de faire un truc ensemble, avec Jean du Voyage. Souvent, on se dit, ce serait sympa, et surtout, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Faut que les plannings de chacun tombent au bon moment et d'avoir le temps de faire ça.
C'est vrai que Hugo Kant et Jean du Voyage, vos deux univers sont assez similaires en termes de production musicale, ça passerait très bien ensemble, je pense. Ok. Et après, donc, en termes d'inspiration, les artistes que tu apprécies vraiment beaucoup, toi, c'est lesquels?
J'adore The Herbalizer, parce qu'ils ont vraiment un style que j'aime bien, qui est bien métissé dans les genres. Il y a beaucoup de c'est riche musicalement, il y a du jazz, du hip-hop, du funk, et donc j'aime beaucoup. Et puis dans le temps, ils restent assez fidèles à ce que eux ils aiment, ils surfent pas sur des vagues de tendances, et ça c'est, je trouve ça assez bien. Voilà, j'aime beaucoup Bonobo, il a changé de style un petit peu. C'est pareil, c'est comme pour Amon Tobin, j'adore Amon Tobin, les gens connus, tout ça, c'est de la bonne qualité, quoi.
Tout à fait. Et après, donc, si tu voulais donner des conseils à des gens qui voudraient se lancer dans la production musicale, ce serait laquelle, avec ton expérience?
Déjà, pour tous ceux qui se disent, utiliser un logiciel, c'est compliqué, j'y connais rien, et du coup, ils font pas. Un logiciel au dos, c'est pas compliqué du tout, il suffit d'utiliser 2 jours, et ça dépend pour qui, mais déjà, la barrière technique, c'est pas ça le problème. Faut se lancer. La vraie question, c'est musicalement. Qu'est-ce qu'on veut faire musicalement? Comment y arriver? Quels sont utilisés? Comment produire? Il y a toute la question de production, il y a savoir quels sons on veut. Parce que ça, c'est les choses importantes quand c'est des projets solo. Là, on parle de beatmaker ou de producteur. Ils écoutent beaucoup de musique et ils savent au final où se situer dans le panel de sons. Je veux avoir tel son. Ça, c'est important quand on veut faire de la musique. Enfin, je pense quand on veut la mixer soi-même ou la produire. Des fois, moi, je vois pas mal de groupes. Quand c'est des groupes de musiciens, ils font la musique, mais ils savent pas réellement, en fait, leur manque le directeur artistique, on va dire.
De la cohérence, c'est ça?
Oui, de la cohérence ou même juste savoir comment on veut la mixer, parce que c'est un peu comme les arrangements, un morceau, un même morceau selon les arrangements, il va changer du tout au tout, et ce même morceau mixé de telle ou de telle manière, ça influence comment le morceau est perçu par les auditeurs qui eux ils s'en foutent de comment c'est mixé, ils y connaissent rien, mais par contre ils reçoivent ces informations subliminales.
Et donc après, justement, donc toi tu conseilles d'avoir une patte qui soit calquée à chaque fois, ou du moins qui qu'il y ait un arrangement, qu'il y ait de la cohérence entre chaque projet.
Ah, c'est pas chaque projet, je parle de vraiment dans le mixage d'un son, d'un morceau, où, parce qu'il peut y avoir des différences de son entre les morceaux, parce que ça, c'est sur les albums, soit l'album il est complètement cohérent, tout a été enregistré au même jour, au même endroit, avec le même son. Ça, c'est pas un problème où les morceaux ils sont disparates, on va dire. C'est comment est mixé, à quelle période ça se réfère. Est-ce que c'est un son des années 60, des années 70, 80, 90, 2000, avoir des repères comme ça dans le temps, savoir, bah tiens, j'aime bien ce son de reverb sur la caisse claire, parce que ça me rappelle ça, ou... Mais savoir aussi ce qu'on n'aime pas. Ah non, ce son-là, je l'aime pas.
Donc en fait, c'est de la curiosité musicale et surtout de la perpétrer.
Oui, 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 de la culture de mixage, ouais, de la culture de... Et ça, on apprend toujours, c'est pas le plus facile.
C'est clair. Et après, donc toi, donc, t'as appris vraiment sur le tas avec des tutos YouTube, comment t'as appris exactement la musique, du moins le mixage et tout ça?
Bah, j'ai commencé très tôt. Après, je suis pas un professionnel là-dedans. J'ai commencé très tôt parce que, moi, mon frère, il a commencé à faire un petit peu de musique et puis c'est très rapidement orienté vers ingénieur du son. Pareil, mais en autodidacte. Mais donc, moi, adolescent, de plus, que c'était la marque de la table de mixage. On avait genre une 32 voix dans notre chambre à 14-15 ans. Ou avant ça, j'avais le 4-piste cassette. J'enregistrais des morceaux des Beatles, en multipiste, la batterie, la basse et tout ça. Et puis après, bon, j'avais tous les micros, les tables de mixage, on avait des effets et tout ça. Puis on câblait, on s'enregistrait tout le temps. Et après, on a monté un studio d'enregistrement à Marseille, un peu plus tard, quand on a bougé sur Marseille. Et là, j'ai bossé dans le studio avec lui pendant, je sais plus, passé 4-5 ans à mixer, à placer des micros sur les batteries, à faire le traitement sonore acoustique pour la cabine, et machin, des travaux, et recevoir des groupes. Donc ça, c'était le studio des Sirènes à Marseille. On habitait sur place, on a eu le studio d'enregistrement.
Le studio existe toujours ou pas, celui des Sirènes?
Non, ça y est, c'est fini. Ouais. Il a continué un petit peu. Moi, j'ai continué à faire la musique et lui, il a continué le studio, mais je suis plus arrêté en 2008 ou je sais plus là exactement.
Une des dernières questions à te poser, c'est si tu avais un conseil à donner à Hugo Kant d'il y a 10 ans, ça serait quoi exactement avec l'expérience que tu as acquise?
Alors ça, je sais pas. Quelque chose que je ferais différemment, à part essayer d'être un poil plus productif. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Hein. C'est, le temps, il passe vite. Donc
Ouais, puis après, vouloir tout le temps aller vite, c'est pas forcément aller bien, quoi.
Mais non, c'est faut trouver une bonne balance, parce que oui, c'est ça sert à rien de sortir un truc tous les 6 mois, si le truc, il en 6 mois, il est oublié. Parce que il a été bâclé. Faut bâcler ou faire de la musique, c'est pas la faire au kilomètre, effectivement. Mais à un moment donné, il faut la faire, parce que si on la fait jamais, ça marche pas non plus. Donc, ouais, trouver un juste milieu là-dedans, ouais. Surtout à l'heure actuelle, avec tous les 50 000 projets qui sortent par jour, on sait plus où donner de la tête. Du coup, c'est un peu un devoir en tant qu'artiste de pas sortir n'importe quoi tout le temps, tous les jours, pour le plaisir, parce qu'on peut. Voilà, on peut le faire, c'est sûr, mais.
Préférez donc le Cali au Canti.
Ouais.
Ok. Et après, donc en termes de promotion musicale, donc tu le fais aussi tout seul. Est-ce que t'as des conseils peut-être à donner pour avoir plus de visibilité sur les réseaux?
C'est pas évident, hein, c'est dur. C'est dur. Nous, on a beaucoup bossé sur la promo au début du projet, forcément. Forcément, quand personne connaît, on a passé des nuits, enfin des journées, des nuits. Moi, j'ai beaucoup utilisé SoundCloud, bon, parce que pour ce qui est des plateformes, ça m'a beaucoup aidé au début. Même plus que YouTube, parce que j'ai jamais eu trop de clips, j'ai jamais eu trop de donc j'ai pas fait de clips virales ou quoi que ce soit. Ça a été toujours que de l'audio quasiment. Mais SoundCloud, ça m'a beaucoup aidé. Mais alors maintenant, à l'heure actuelle, je sais pas si ça risque d'être un peu plus dur de se faire déjà une petite base de fans là-dessus. Je sais pas. Après tout est faisable. Parce que ça, c'est bon, c'est du côté des sites. Bon, maintenant, c'est sûr que YouTube, s'il y a une vidéo qui arrive à être recommandée par les algorithmes de YouTube, ça, c'est très bien. Mais pareil, c'est dur d'y arriver quand on n'a pas une base de fans qui peuvent faire des lectures au départ. Moi, je vois après, c'est sur d'autres chaînes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a d'autres chaînes qui uploadent ton morceau sur leur chaîne, qui eux ont des followers, ça, c'est intéressant. Parce que justement, ça peut être pris dans les algorithmes de YouTube. Déjà, tu bénéficies des followers de la chaîne. Et ça a plus de chances d'être relayé par YouTube aussi. Et donc ça, moi, j'ai beaucoup plus de vues sur les chaînes des autres que sur ma propre chaîne, sur YouTube.
Est-ce que tu vois justement une augmentation de du nombre de followers quand tu as quelqu'un qui reposte un de tes sons, enfin du moins qui utilise un de tes sons sur leur chaîne?
Oui, bah ça c'est dur à quantifier. C'est dur à quantifier parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Mais par contre, ce qui est quantifiable, c'est quand les gens te le disent d'eux-mêmes. Ah, ils te laissent un commentaire. Je t'ai découvert parce que je suis venu de là ou un chat. Ou les gens, ah, j'ai vu cette vidéo, du coup, je suis là. Et puis l'autre, il répond, ah ben moi aussi, etc. Donc tu vois un peu les connexions comme ça qui se font de les gens d'où ils viennent.
Tu le prends pas mal, en tout cas, quand quelqu'un utilise une de tes vidéos, enfin, un de tes sons, tu le prends pas mal. Pour toi, c'est plus une opportunité que quelque chose qu'on utilise ton projet à des mauvaises fins.
Ah, bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est toujours bien. Pour parler de YouTube, c'est là où il n'y a aucun problème aussi, c'est que maintenant, les morceaux sont distribués sur YouTube. Donc, c'est là où celui qui utilise la musique de quelqu'un, si elle est distribuée sur YouTube, s'il a des millions de vues, bah, il y a une partie qui revient à l'artiste original. Ça évite de se dire, oh, il m'avait pris mon morceau, il a des millions. Et j'ai rien du tout. Puis les gens maintenant sont habitués à la pub sur YouTube, ça les fait plus trop chier.
Ouais.
Pardon, excusez-moi.
Ouais, pas de soucis.
Donc c'est rentré dans les mœurs, du coup il y a un petit écosystème. Bon, même s'ils payent vraiment pas beaucoup, ouais. il en faut des milliers et des milliers. Voilà, ça permet de se dire que voilà, ils participent à la promotion et au financement, hein, au final. Ça c'est pour, voilà, juste pour finir. Il y a sûrement d'autres sites maintenant, il y a tous les d'autres sites pour mettre sa musique, essayer de se faire connaître. Hein, YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. Mais après, nous, au début, le gros boulot de promo, ça a été de contacter beaucoup de radios, de faire des contacts personnels, on va dire, enfin, entre guillemets, de s'intéresser, de savoir, bon, bah, quelle émission de radio passe, quel style de musique, est-ce que ça va lui plaire et quel programmateur dans la radio serait intéressé par cet album. Et du coup, envoyer la promo, entre guillemets, à des personnes bien particulières. Et ça, c'est un gros, gros, gros boulot qui paye, ouais.
Mais qui prend énormément de temps, quoi.
C'est du boulot, c'est pas juste mettre un morceau sur Internet. Voilà.
Parce qu'après, tu dois contacter des centaines de personnes qui reçoivent aussi des centaines de mails tous les jours, voilà. Et qui vont sortir du lot, c'est compliqué.
Ouais, voilà, c'est pour ça que nous, on l'a jamais fait. Récupérer des mails et envoyer un mail générique à 2000 personnes, je l'ai pas fait, donc je peux pas savoir si ça marche. Envoyer à des personnes spécifiques, bien choisies. Si la musique, elle correspond, pas dire si la musique est bonne, mais si elle correspond
à la radio.
Voilà, radio, est-ce que la personne attend. On a eu beaucoup, beaucoup de retours positifs, en tout cas. Et ça, c'est motivant aussi, de pas envoyer à n'importe qui, et du coup, oh, bah, personne ne répond. Quand on choisit bien à qui on envoie les choses, bah, on a plus de chances qu'on
envoie des retours. Ouais. Bah, en tout cas, c'est super.
Un conseil.
Ouais, plutôt que d'envoyer donc des mails groupés, faire vraiment du spécifique. Mm. Ok. Est-ce que tu as un petit mot pour ajouter pour la fin?
Je souhaite de bons barbecues à tout le monde pour, pour bientôt.
Ouais, on espère aussi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Donc, c'était un plaisir de t'avoir pour nous parler de ton projet. Donc, c'était Hugo Camp pour Radio Pulse. Passe une excellente journée.
Merci à toi. Bonne journée aussi.
Salut.